100% rouge et jaune. 100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN.
Salut à tous, c'est la reprise pour 100% rouge et jaune après la pause olympique. Et oui, content de vous retrouver. On est ensemble pendant 45 minutes pour débriefer l'actu chaude du HCBN avec l'entraîneur Christian Dubé qui est notre invité. Débrief du match à Lugano, la dernière ligne droite pour tenter d'arracher les play-in. On apprendra aussi à mieux connaître l'entraîneur du HCBN, Christian Dubé, le coach, le papa, le Canadien. Aussi, c'est parti pour 100% rouge et jaune.
100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN.
Et pour ce 100% rouge et jaune, on est avec notre consultant, l'ancien arbitre Marc-Alain Parot. Salut!
Salut Jérémy, salut Laurent, salut Christian.
Bonsoir.
Et à tes côtés, Laurent Petita, journaliste au JDJ qui est avec nous. Salut Laurent.
Salut les gars.
Et on est ravis évidemment d'accueillir l'entraîneur du HCBN, Christian Dubé. Salut Christian.
Bonsoir.
Comment ça va Christian après cette pause olympique pour cette dernière ligne droite là pour vraiment le championnat, essayer d'arracher les play-in? T'es content du travail de préparation que vous avez fait pendant 3 semaines?
Oui, après le dernier match avec l'automne, on a eu une semaine où on s'est entraîné. C'était déjà prévu d'avance et puis par la suite j'ai donné 9 jours de congé aux joueurs et puis on a pu s'entraîner par la suite une semaine, on a pu vraiment entraîner des choses que je voulais mettre en place que j'ai pas eu le temps depuis que je suis ici. Il faut comprendre que les 5 premiers matchs, on a eu genre 7 entraînements pour 5 matchs, donc ça a été extrêmement chargé, extrêmement intense, mais dans l'ensemble je suis assez satisfait. Avec le match de hier, tu récoltes 10 points en 6 matchs, ce qui est excellent, puis tu reprends du terrain sur les équipes en avance, donc voilà, c'est très positif.
Alors justement, il y a déjà eu un test après ce gros travail, c'était à Lugano mardi pour la reprise du championnat après les JO. Voilà comment ça s'est passé au Tessin.
100% rouge et jaune, la rétro.
Et Lugano, attention, qui met de la vitesse avec un premier débordement, Turcaouf qui remet sur le centre, c'était Riosol et c'est goal. La douche froide du côté de Lugano, 55 secondes de jeu. Valégri bien sur Dionisio et c'est goal! L'égalisation avec Dionisio depuis l'arrière de la cage. Qui peut trouver? C'est Jutanen qui était là. Allez bien, temporairement à 6 contre 5. Boxplay différé, si on peut le dire comme ça. Le tir d'Anderson et c'est goal! C'est superbe! L'arrivée de Sylvegaard qui décale Anderson. On vient de passer la mi-match et le HCBN qui, pour la première fois de la soirée, prend l'avantage. Anderson face à Sekatch. Le tir de Fazzini, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation à 3-35 pour ramener les deux formations à 3 partout. Sever qui s'élance sur la droite, qui franchit la ligne bleue, qui vient dans le rond d'engagement face à Schlegel. Sever qui met Schlegel au sol, c'est goal! Sandford face à Seteri, Sandford qui vient mourir dans la mitaine de Seteri. Victoire du HCBN, 4-3 après prolongation du côté de Lugano.
100% rouge et jaune.
Voilà, victoire 4-3 après tir au but. C'était avec les commentaires de Mathieu Schaffner. Bienne 11e à l'heure où on se parle, qui revient à 3 points de Langnau, 10e, qui a perdu à Davos mardi. Et puis à 4 points de Berne, qui s'est incliné après prolongation à Kloten. Tu te dis quoi, Christian, après ce scénario? Tu te dis on est toujours en vie et on a repris 2 points à Langnau, ou tu te dis on aurait quand même pu peut-être prendre les 3 points?
Ah non, alors... On a joué 3 matchs à l'extérieur. Depuis que je suis là, on a fait des points à chaque fois. Donc c'est
ce qui n'était pas le cas avant.
C'est ce qu'on me dit, tout le monde me dit. Donc je trouve que c'est excellent. On a monté beaucoup de caractère hier. Je veux juste la petite histoire sur le 3-3. Ils nous ont calé un icing quand il n'y avait pas d'icing. Donc voilà, les gars auraient pu se décourager. Ils auraient pu avoir la tête entre les jambes. Mais on a réussi à arracher ce 2e point qui est extrêmement important. Puis chaque point que tu arraches à gauche, à droite, ben à la fin, ça peut en faire plusieurs, puis ça fait la différence.
Alors, on en reparlera de cet icing, parce qu'on est avec un ancien arbitre, Marc-Alain, et puis il aura aussi son petit mot tout à l'heure pour en parler. Mais avant ça, on va débriefer ce match ensemble avec l'équipe.
100% rouge et jaune. Le débrief.
Pas vraiment d'étoiles à distribuer aujourd'hui parce qu'il n'y a eu qu'un match depuis la trêve olympique. Normalement, on a l'habitude de distribuer les étoiles aux différents joueurs. On va se contenter de quelques tops et flops. Marc-Alain Parot, justement, tu étais devant ta télé mardi, bien attentif. À qui tu veux distribuer les bons points après ce match à Lugano?
Alors les bons points pour moi, je les distribuerai à Harry Seteri, parce que là hier soir il a sorti un tout grand match. On a retrouvé le Harry Seteri des dernières saisons. Il a été très fort en tir de barrage. Il nous a vraiment bien aidé à aller crocher ce deuxième point. Je mettrai aussi une mention à Marcus Silvegaard pour un but, un assist. Il a vraiment eu une grosse présence physique aussi dans le match lors des bandes. Et puis au coaching staff, parce que pour moi, il y a un gros changement de mentalité sur la glace au niveau, pour le HC bien. Donc,
il dit ça parce que je suis sur le plateau. Mais...
Non, franchement, c'était...
Ben, il m'a prévenu quand il a préparé, il a dit « Promis, c'est pas pour failloter.
» Non, hier soir, le box play, il était plaisant à voir. Il y a vraiment eu du travail. On voit qu'il y a quelque chose qui a été mis en place et il n'y a pas eu de but, quoi, tout simplement.
Tu parlais de Seteri, on le sent effectivement mieux sous l'ère Christian Dubé. Là aussi, c'est pas forcément pour t'envoyer des fleurs, mais Gaëtan Haas nous disait aussi lors de la dernière émission, oui, Abba, ça va mieux parce que tout simplement le système aussi a changé. Est-ce que quand tu es arrivé, c'était dans tes plans de te dire, ce gardien, je sens qu'il livre pas les mêmes prestations que les dernières années, j'ai besoin de le relancer?
Quand on voit les chiffres, on voit que c'est donc il y a une raison à ça. Quand j'étais à Fribourg, j'avais aussi un grand gardien avec Reto Berra, et puis on était une des équipes qui donnait le moins de shoot du slot, donc de l'enclave. C'est hyper important pour un gardien de savoir que l'enclave va être pris, qu'il va y avoir du monde, mais que l'extérieur, on va laisser les shoots de l'extérieur. C'est ce qu'on fait à 4 contre 5 aussi, on a changé. Donc j'essaye un petit peu, t'as pas la même équipe, mais je changerai pas, je joue d'une certaine manière et je veux que c'est notre équipe ici joue comme je l'ai on a joué les saisons passées, même si j'étais pas ici. Et puis ça prend du temps, par contre, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je pense tranquillement les joueurs commencent à prendre leur aise. Et puis comme vous parlez du 4 contre 5, ben oui, on a commencé à l'entraîner plus. Et puis encore des choses qu'on doit améliorer. Le power play doit être meilleur. Notre système aussi défensif hier, on donne des chances qu'on ne devrait pas donner, mais ça vient avec de l'entraînement puis avec de la répétition.
Ouais, puis aussi, on sent une solidarité retrouvée. Hein. Cet Eri, il a peut-être aussi moins de travail parce que ses coéquipiers bloquent des shoots, ce qui n'était pas forcément le cas aussi avant. Hein. On sent, on a envie, on met de l'intensité sur la glace. Par rapport à ce qui manquait il y a 2 ou 3 mois, on sent vraiment cette solidarité à toute épreuve. On veut se battre pour aider Harry aussi à avoir moins de tirs dangereux.
Tu as fait des choses spécifiques sur le mental, cette cohésion d'équipe, ou alors c'est venu naturellement, comme ça le fait des fois quand il y a cet électrochoc avec un changement de coach?
Oui, il y a naturellement, les joueurs doivent prouver que... C'est jamais cool pour personne quand t'as quelqu'un qui perd son job. Donc, après, c'est aux joueurs un peu à livrer la marchandise. Par contre, je suis une personne qui est très proche des gars. J'essaie dans mon esprit, je suis encore un joueur de hockey. Je suis plus vieux, oui, mais j'agis comme un joueur dans le vestiaire. Je suis là tout le temps. J'ai besoin de savoir le feeling du groupe. Puis pour moi, c'est vraiment une cohésion de groupe. On prend une décision, mais on la prend ensemble. Comme ça, les joueurs ils se sentent aussi responsables que ça fonctionne. Donc, on n'a pas travaillé spécialement sur le mental, mais je parle beaucoup. Je fais souvent des speeches aux gars, et puis j'essaie de leur mettre un peu la réalité devant les yeux, puis qu'on a une chance incroyable d'être joueur de hockey. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui qui fait pitié, je trouve, on a une chance de venir ici tous les matins, puis t'es là quelques heures, t'as du plaisir entre coéquipiers. Donc, soyez contents d'être là, puis poussez le plus que vous pouvez, puis on est là pour les aider. Puis jusqu'à maintenant, la réponse est assez positive.
Oui, moi, je trouve cette joie de vivre de Christian, on a de la chance de faire du hockey, elle se ressent aussi dans son coaching pendant les matchs, il est actif, et à la bande, ça bouge pour un peu essayer de relancer l'équipe quand ça va pas bien, alors qu'avant, avec Martin Filander, il restait comme souvent les bras croisés,
un peu comme plus placide,
s'il subissait les choses, même si on sait que les Nordiques transmettent moins leurs émotions. Je trouve que là, c'était un peu à l'extrême. On ressent justement cette joie de vivre, d'être content d'avoir retrouvé un banc et un travail, puis qui ramène un peu de l'énergie au jeu du HCBN. Et je trouve que c'est ça qui rend cette équipe de nouveau fort agréable à regarder et en match.
On parlait des tops sur le match de Lugano. T'as des flops aussi, Marc Alain, que t'as remarqué des choses qui t'ont pas trop plu, peut-être des vieux démons?
Alors, le vieux démon du début de match, l'entame de match peut-être qui a poussé ce premier but. Voilà, des breaks, ça peut arriver. Ce qui était dommage, c'est que le rebond, il y a 2 joueurs de Lugano, il n'y a pas de Biennois.
Totalement.
Après, ça s'est bien remis en place. Alors, il y a encore eu des breaks. Hein, je te trouve, les Biennois se sont bien remis en jambes. La suite du match était plaisante. Il y a eu des occasions. Le flop, encore, je dirais, Christian en a parlé, le power play. Le power play, il y a des choses, il y a de l'idée. C'est dommage, on n'arrive pas à faire des fois plus que 3-4 passes. C'est ce qui manque un peu là. La quatrième passe, le puck rebondit ou nous échappe ou on a tout de suite un adversaire. Ça se travaille, ça vient bon, mais il y a encore un peu à faire. Mais le power play, je pense que c'est là qu'on doit essayer de gratter ces buts qui nous pousseraient un peu plus en avant.
Et en même temps, c'est un process constant. Hein. Ça s'en va, ça revient. Les situations spéciales, on sait que c'est jamais linéaire.
C'est le système au complet. J'ai 5 attaquants ensemble pour le power play. On l'entraîne tous les jours. Pour quelconque raison, ça clique pas tout le temps. Donc, on a vu, comme vous dites, des bonnes choses, mais il faut que ça marche mieux que ça, c'est clair. Pour moi, les unités spéciales, donc je parle du 4 contre 5 et du 5 contre 4, est primordial. Dans les play-in, dans les play-offs, c'est là que tu gagnes ou tu perds les matchs, et puis on doit vraiment être meilleur, mais on le travaille, et puis on a beaucoup de séances vidéo avec eux, on leur montre des choses, mais après, c'est aux joueurs à faire le boulot.
Il parlait des entames de match, je voulais parler aussi des fins de match, parce que même avant ton arrivée, Christian, c'est une équipe qu'on a dilapidé pas mal de points sur les fins de match en se faisant rejoindre. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une peur de gagner dans cette équipe, un petit peu un manque de confiance quand on mène puis quand arrive le money time?
Un petit peu. Je sens que c'est plus profond. Les gars ont peur parce qu'ils l'ont vaincu. Vous avez perdu des matchs, je pense à Zurich ou des choses comme ça en fin de match vraiment. Puis tu vois qu'ils sont un peu crispés. Moi, j'essaie de... Pour moi, ça... Moi, j'étais pas là. Donc, j'essaie de leur dire, les gars, let's go. On joue de la même manière et tout. Mais après, c'est dans le... Inconsciemment, c'est dans le début de match. Pas de mauvaise volonté. On veut être trop agressif parce que je veux qu'on se laisse pas faire. Donc, on veut être agressif. Mauvaise décision, on est trop agressif. On se fait prendre. Roddy, l'hypoc, le gars vient, se fait battre. Et oui, les joueurs n'arrêtent pas devant le goal. Donc, c'était Marcus et Sevi, je pense. Donc, ils n'arrêtent pas. Ils se retrouvent à 2 contre 0, filet ouvert, goal. Donc, c'est pas de mauvaise intention. C'est peut-être d'être un petit peu trop agressif en voulant commencer le match. Donc, c'est des choses à ajuster. Mais encore là, c'est des choses qu'on montre et qu'on... On espère avec le temps va rentrer dans la tête.
Après, je pense, comme a dit Christian avant, c'est quand même positif de voir, malgré l'égalisation de Lugano, début de match difficile, il y a quand même 2 points quand tu rentres, alors que peut-être il y a 2 mois, ça aurait peut-être fini 3-0 au premier tiers pour Lugano, puis c'était plus compliqué. Quand même, un long déplacement comme ça, je pense que c'est jamais facile d'entrer dans le match. Et puis, franchement, ces 2 points, ils risquent peut-être de compter en fonction... Il y a un gros week-end qui arrive, mais en fonction... C'est quand même pas tout le monde donné d'aller gagner à Lugano, même s'ils sont moins performants à la maison qu'à l'extérieur, les Tessinois. Mais c'est pas donné à tout le monde d'aller gagner ce match, j'ai l'impression.
100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN.
Question sur le line-up, il a pas beaucoup évolué entre l'avant JO et puis l'après. T'as eu 3 semaines de travail pour le poser. Ça veut dire que t'es satisfait de cette compo ou c'est aussi la volonté, parce qu'il reste que 5-6 matchs, de pas tout révolutionner, il faut laisser des repères à ces joueurs-là?
Non, je pense que on peut pas tout révolutionner non plus. On a l'équipe qu'on a. J'ai des blessés. J'ai Johnny qui est out. Et puis, j'ai Yeri qui était out aussi. Donc, je donne une chance à Marc Sévère, qui est excellent jusqu'à maintenant. C'est un bon jeune, beaucoup de talent. Donc, je le fais jouer power play sur les top 2 trios. Et puis, voilà, il y a des jeunes qui vont avoir une chance ici et là. Puis après, à eux de performer. Donc, après, les étrangers, t'as un Marcus qui doit marquer des goals avec qui tu le fais jouer pour qu'on puisse l'alimenter. Après, on a de la qualité. Mais je pense que on a tous un peu la même idée. J'ai demandé aussi ce que mes assistants, ce qu'ils pensaient. Donc, je mettais des lignes, puis après, je me suis ajusté par rapport à eux, les feedbacks que j'avais d'eux. Donc, pour moi, c'est important. Je veux pas faire n'importe quoi non plus. Il y a des gars que je connais pas vraiment. Je vais être honnête avec vous. Depuis 2 ans que je suis pas derrière un banc. J'ai eu une année très, très difficile l'année passée. Puis là, tranquillement, je me suis remis dedans à regarder. Mais pendant un moment, je regardais pas.
T'as décroché tout. Complet, oui.
Exactement,
ouais.
Il fallait, parce que c'était trop difficile. Et puis, tranquillement, j'apprends à connaître ces joueurs-là et l'équipe.
La suite, un petit coup d'œil sur le calendrier. Il y aura 2 concurrents directs, Berne à l'extérieur samedi. Il y a Langnau qui arrivera à domicile l'avant-dernier match. C'est les 2 équipes qui sont devant vous. Il y a Zug aussi que vous allez jouer dès vendredi à la maison. Zug qui est peut-être aussi une équipe potentiellement à aller chercher. Genève, Davos. Quel regard tu portes sur ce calendrier de fin de saison, aussi avec seulement 2 matchs à la maison?
Les matchs à la maison extérieur, ça me dérange pas. Comme je l'ai dit, on a joué 3 à l'extérieur, puis on a quand même bien fait. Donc moi, j'ai une certaine confiance... en l'équipe ou en moi là-dessus. Je pense que c'est bien d'affronter justement des équipes qui sont devant nous. C'est des matchs à 6 points, mais comme je l'ai dit à chaque joueur, pour moi, c'est chaque présence compte, chaque jeu compte, chaque tiers compte. Donc, faut pas regarder trop loin. On commence contre Zug, les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, puis ça continue comme ça. Donc, on peut pas regarder trop loin. On peut pas... Moi, je dis, on est en contrôle de notre situation. gagnons nos matchs, que ça va aller.
C'est chaque match un match de play-off, si on veut bien résumer?
Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit 6 matchs avec le match d'hier, c'est 6 matchs de play-off. À nous de faire ce qu'il faut, à nous d'avoir des guerriers, 22 guerriers chaque soir, se battre. Et puis voilà, à la fin, ben, il arrivera ce qui arrivera.
Donc on va sortir les poches de glace à la fin de chaque match?
Il faut. Je veux dire, c'est la beauté de la chose. Je veux dire, tu joues toujours, t'as mal, t'as des bobos à gauche, à droite, t'es blessé. Quelqu'un qui joue tous les matchs à 100%, je me pose des questions. Parce que c'est un sport qui est rude, ça frappe, ça joue physique, ça se donne des coups. Si après un match, t'as pas mal, c'est que soit le coach t'a pas fait jouer du tout ou tu t'es pas impliqué assez.
Sur le week-end qui arrive, Zoug, vendredi, on l'a dit, concurrent potentiellement direct, parce que si vous les battez, vous revenez à 3 points. Il y a Berne samedi. Je sais que c'est un truc de journaliste, mais est-ce que tu vois ce week-end quand même comme un tournant? J'ai l'impression que c'est pas le week-end où tu vas te qualifier, mais c'est le week-end où peut-être tu peux tout perdre.
Ben déjà, le match d'hier montrait beaucoup de choses. Si on perdait hier, ça venait encore plus compliqué. Donc déjà, comme j'ai dit, chaque match a son importance. Hier, on fait 2 points, ben, ça nous remet encore en meilleure position. Maintenant, on joue contre Zoug. À nous de continuer à faire le boulot. Donc, comme vous dites, vous regardez beaucoup à la... Moi, je suis vraiment dans le moment présent. C'est me concentrer sur le prochain match. Demain, on fait l'analyse de Zoug. On fait du vidéo sur ce que les tendances qu'il faut faire, ce qu'eux font. Et puis après, ben voilà, après on va passer à Berne, puis après on va passer à Langnau, puis c'est comme ça.
Mais si on prend de quoi comme ce week-end, comment tu vois depuis ton arrivée, c'est quoi le point que tu trouves l'équipe, elle a le plus progressé, qui te fait le plus plaisir par rapport au premier match que tu es à Lausanne? Comment tu vois ça?
Bon, l'attitude, elle est excellente. Je dois dire, j'ai beaucoup de retours positifs, j'aime beaucoup l'entrain des joueurs. Je trouvais une équipe qui est un petit peu à plat, si on peut dire. Moi, je suis un gars qui est assez vivant, puis j'aime que les gars s'amusent, puis je trouvais qu'on était un peu à plat. Donc là, ça vient aussi avec les victoires, vous allez me dire, mais là, je sens l'équipe qui est plus vivante, et puis donc ça me fait plaisir. Et puis après, dans le système de jeu, ben le 4 contre 5, je trouve qu'il était pas très bon, je pense, avant. Là, on l'a amélioré, ça va bien. Puis j'aime défensivement, on est beaucoup plus agressif qu'on était. Quand l'équipe adverse rentre dans notre zone, on veut aller directement puis créer une bataille et puis créer un surnombre. Donc ça, pour moi, c'est très important. Puis on s'en va où je veux.
En parlant du match à Berne samedi, Laurent, tu es allé à Berne justement pour rencontrer un certain Pavel Rosa.
Oui, on aura un sujet avec Pavel samedi, qui connaît très bien Christian. Ils ont collaboré de longues années ensemble à Fribourg. Et lui aussi, il disait, quand j'ai demandé c'est quoi ce qui vous plaît le maximum chez Christian, quand on est avec lui, il dit c'est son bonheur et sa joie qu'il amène par rapport au hockey. Et cette motivation qu'il arrive à trouver dans ses discours pour pousser l'équipe à tout donner sur la glace, voilà, c'était ça un peu ce que disait Pavel, tout en disant que ce serait un peu spécial d'être adversaire, mais que finalement à la fin, ben, ce serait ces 3 points vraiment importants qui risquent d'être en jeu, quoi.
Ça va être une guerre tactique, parce que vous vous connaissez par cœur du coup.
Oui, mais oui, on se connaît par cœur. Pavel sait exactement comment on va jouer, donc je pense qu'il va donner quelques infos à Heinz de l'autre côté, mais je sais très bien comment Berne joue aussi. Heinz Seller, c'est son système qui est très défensif, donc ça va être une belle guerre.
Avant de passer à la suite, une dernière petite question. On était aussi au gala des donateurs du HC Bienne, où tu étais aussi, tu venais d'arriver, hein, c'était juste avant les JO. 800 personnes présentes, est-ce que tu as senti une certaine pression? Parce que ben, ces gens-là, ils font aussi vivre le club, et puis tu te dis, ben, si on ne leur donne pas les résultats, s'il n'y a pas de pay-in, est-ce qu'on ne risque pas d'en décourager? Est-ce que dans ce genre d'événement, tu sens une certaine pression? Bon, même si tu n'as pas à la portée, parce que t'es arrivé peu de temps avant, mais comment tu vis cette relation-là? C'était particulier?
Moi, j'adore ce genre d'événement. À Fribourg, on faisait la même chose, on avait 2-3 000 personnes, c'était des sponsors. Donc moi, j'adore m'amuser avec les gens, puis franc-parler, j'adore ça.
En plus, t'as été interviewé par Stéphanie Méry, la présidente, c'est pas facile.
Non, j'adore ça, moi j'ai beaucoup de plaisir à répondre aux questions plus honnêtement possible, ça me dérange pas. J'ai pas de tabou là-dessus, puis j'essaie juste de dire ma pensée comme je suis, puis voilà, qu'on aime ou qu'on aime pas, ben, je suis comme ça, donc j'ai beaucoup de plaisir avec ça.
On passe à la suite, ça va être la chronique de Marc Alain, on va reparler justement d'arbitrage.
100% rouge et jaune, le coup de sifflet de Marc Alain.
Et Marc Alain, pour ta chronique aujourd'hui, t'as renfilé ton costume d'arbitre, ton œil d'arbitre aussi?
Voilà, exactement. Moi, je voulais revenir un petit peu en arrière sur le tournoi olympique qu'on a vu. On a eu des très beaux matchs, donc il y avait les meilleurs joueurs de la planète, mais aussi, on nous a dit qu'il y avait la crème de la crème au niveau de l'arbitrage. Personnellement, j'ai quand même été un petit peu déçu parce qu'en parlant de crème de crème, j'ai quand même constaté qu'on arrive à jouer un match pendant 20 secondes à 6 contre 5, porte fermée, qu'on arrive à partir en contre-attaque. Je parle bien sûr du match Canada-Tchéquie où les Tchèques sont partis en contre-attaque à 6 joueurs plus le gardien sur la glace. Donc on était en zone de défense, c'était facile à compter. On part en contre-attaque, on marque en contre-attaque. Donc les Canadiens s'énervent, on célèbre sur la glace à 6 joueurs, on va au bas des joueurs et aucune pénalité. Donc on peut parler du niveau de l'arbitrage suisse qui peut être remis en question, on l'a vu hier parce que je suis du même avis que Christian sur le icing qui a été sifflé à mon sens aussi. On peut le rejouer 10 fois, il y en a 9 qui vont l'annuler, il y en a un qui va le siffler, mais enfin on est tombé sur celui qui le siffle. La conséquence, c'est le but qui vient derrière. Mais moi, à mon sens, ma question, c'était... moi, j'ai été ancien arbitre, j'ai fait des fautes, voilà, on est humain. Sur une saison, un coach sur 52 matchs, à peu près, si on fait une moyenne, ça fait quoi? On arrive à dire, il y a peut-être 2 matchs qui sont volés à nous, il y en a 2 qu'on les gagne, ou ça s'équilibre à la fin de la saison ou pas forcément?
Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je joue à Berne, les arbitres, ils se... On avait un 5 contre 3... Un match sur 3, pratiquement. Parce que aussitôt que ça sifflait ou s'achetait des choses, les gens, les arbitres n'arrivaient plus à gérer. Donc, je pense que ça dépend de la patinoire des fans et tout. Est-ce qu'il y a des équipes qui sont avantagées? Peut-être un petit peu. Ça dépend du coach, ça dépend de... Moi, j'essaie d'être calme parce que si je commence à gueuler et faire n'importe quoi, ça va pas nous avantager. Puis je dis la même chose aux joueurs. T'as le capitaine qui peut aller parler, OK. Le coach, je vais leur parler, mais les autres... Vous restez tranquille parce que sinon ça va jouer contre nous. Je pense que sur une saison, ça devrait s'équilibrer d'habitude. Hier, ça a joué contre nous, puis ouais, je veux dire, on a regardé la scène 50 fois. Ils se sont trompés. Donc voilà, c'est comme ça. Ils le disent après aussi, puis mais le mal est fait, si on peut dire. Mais au moins, moi, j'en ai jamais contre un arbitre parce que c'est très difficile comme job. Tout se passe très rapidement, puis c'est pour ça qu'avec on veut du vidéo, puis on veut des caméras, puis pour les aider. Parce qu'il y a tellement, ça va, le hockey va tellement vite au jour d'aujourd'hui comparé à avant que tu peux pas tout voir. Donc moi, j'ai vraiment un respect pour les arbitres parce que c'est un job très difficile. Par contre, j'ai besoin qu'on nous explique pourquoi, puis même s'excuser, ça peut arriver. Tu as loupé un call, il y a pas de problème. Même si ça fait chier à la fin, mais voilà, c'est comme ça.
C'est clair que le même icing au deuxième tiers, il n'y a pas but derrière, on n'en parle pas. Non, c'est au troisième tiers, il y a le but qui suit, ça fait mal.
Oui, non, exactement. Mmh. Mais on veut savoir pourquoi. Ils sont à égalité les deux, même Tony, presque ouais. En avant. Pourquoi? Donc, voilà. Puis l'arbitre, moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est que l'arbitre principal, t'as le droit de dire, OK, on fait ça au centre. C'est trompé. Mais non, même pas. Donc, c'est vraiment, vraiment frustrant. Quand tu te bats, en plus, tu sais, un point, là, si tu fais pas les play-ins par un point, mais c'est peut-être ça qui t'a coûté ta saison. C'est rageant.
C'est vrai que la discussion sur l'icing, on a vu Marc Lemnin dire calmez-vous à Tony Raiala. Ouais. Je pensais qu'il allait avoir une petite discussion avec le juge de ligne, lui dire est-ce que tu es vraiment sûr de ta décision parce que elle a l'air assez knap. Non, ils ont directement été engagés. Je la comprends tout à fait.
C'est là que j'ai un petit peu de peine qu'au moins parlez-vous ensemble ou. Et voilà, c'est comme ça.
Mais je sais qu'avant chaque match, vous avez le droit d'avoir une discussion. Est-ce que c'est des sujets qu'on revient après le match d'après?
Oui, oui. Okay. Puis des fois, même le chef des arbitres, qui était d'ailleurs là hier soir, ils vont faire un mail pour dire, écoutez, sur la scène, là, il y a une erreur de nos arbitres. Puis donc, ils montrent ça aux arbitres aussi. Il y a des explications par la suite.
Merci pour ce coup d'œil acéré de l'ancien arbitre. Et puis maintenant, on va apprendre à connaître peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus personnellement, Christian Dubé.
100% rouge et jaune. L'interview de l'invité.
D'abord, Christian, question au Canadien que tu es, parce qu'on sort des JO, on vient d'en parler. Désolé de t'en parler, mais le Canada a perdu les 2 finales de hockey, les filles, les garçons, contre les États-Unis. Comment t'as vécu ça? Dans le comment t'as vécu ça, il y a évidemment, par rapport à tout le contexte qu'il y a autour, politique.
Oui. Bah, déjà, les Américaines... Donc, les femmes sont beaucoup meilleures que le Canada présentement. Il n'y a pas photo. Donc, je suis surpris que le score ait été aussi serré. Parce que j'ai regardé aussi le tournoi, puis elles ont planté tout le monde, tout le tournoi. Donc, elles méritent 100%. Les Américains, le Canada a dominé le match. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de marquer. Sur un match, je pense sur une série, vous faites sur une série, le Canada aurait gagné, je pense. D'habitude, sur une série, la meilleure équipe gagne d'habitude. Mais sur un match, tout est possible. La boxe a été incroyable. McKinnon qui manque un open net, s'il marque là, ben voilà, c'est pratiquement terminé, c'est comme ça. Mais le programme américain s'est beaucoup amélioré depuis les dernières années. On voit, il y a beaucoup de la formation, beaucoup d'argent qui a été dépensé dans le programme. On voit des jeunes, je sais moi-même, hein, moi j'ai été drafté en 95, il n'y avait pratiquement aucun Américain. Même jouer avec Team Canada dans le temps, on jouait contre les Américains, on était beaucoup meilleurs qu'eux. Ils faisaient pas les demi-finales ou ça. C'était toujours la Suède, c'était les Finlandais, les Tchèques, les Russes, évidemment. Et maintenant, les Américains sont vraiment top of the world avec le Canada. Avec... Là, on voit, pour moi, il y a quand même deux pays, Canada et États-Unis, qui se distinguent. On voit les Suédois, c'est plus compliqué. Les Tchèques, c'est plus compliqué. Les Russes sont pas là présentement. Donc, mais vraiment, la formation de la jeunesse ou du sport aux États-Unis, du hockey, a vraiment explosé. Les collèges américains sont très forts. Vous avez vu à la Spengler Cup qui sont venus jouer des jeunes de 18 à 24 ans. Donc, on voit vraiment une grosse, grosse, grosse progression.
Et t'arrives à regarder cette affiche purement sportivement ou le contexte politique te pollue un peu ça en ce moment?
Ouais. Disons que tu te dis pourquoi c'est eux qui ont gagné, tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, c'est comme ça. Je veux dire, t'as des bons kids là-dedans et des bons joueurs de hockey. Donc à la fin, mais la meilleure équipe, pas la meilleure équipe, mais là. Ça a tombé comme ça, ils ont gagné, mais pour moi, c'est pas une surprise non plus. Depuis, tout le monde en parle de ce match-là depuis maintenant longtemps. On savait quand les joueurs de la NHL allaient venir aux Olympiques Canada, USA, ça serait un match incroyable. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, voilà, j'essaye de regarder plus ça d'une manière neutre, mais c'est pas toujours facile.
Moi, je trouvais, comme a dit Christian, c'est impressionnant ce vivier de jeunes des Américains, vu que déjà dans l'équipe qui avait été championne du monde, malheureusement, contre l'équipe de Suisse, il y avait pas mal aussi qui évoluaient, même dans la ligue universitaire ou comme ça. Et on les voit, des joueurs rapides, techniquement vraiment forts. Et c'est ça qui est impressionnant. Ils ont vraiment un vivier qui se rapproche du Canada, puis on l'a vu maintenant sur NHL.
On voit, il y a un programme des U18 américains, puis les jeunes, ils jouent tous ensemble pendant quelques années, puis ils jouent dans le championnat de la NCAA universitaire contre des gars de 24 ans, 25 ans. Donc et d'ailleurs, plusieurs anciens, le fils de Sébastien Bordelot, Thomas, il a joué dans ce programme-là aussi, puis Sébastien, il me disait, c'est extraordinaire, ils s'entraînent ensemble, ils mangent ensemble, ils sont tout le temps, c'est vraiment une vie de groupe, puis ils évoluent, puis pratiquement le trois quarts des joueurs qui sont là sont repêchés dans les deux premières rondes. Je parle pas d'être repêché, mais d'être repêché dans les deux premières rondes. Donc, c'est les Hughes, les frères Hughes qui sont là, les Kachuk, ça a tous passé par ce programme-là.
On revient à Bienne. Quand tu es arrivé il y a un mois, tu nous as dit c'est un club que tu avais coché parce que l'organisation t'intéressait. Après quelques semaines, qu'est-ce que tu en as découvert? Est-ce qu'effectivement, c'est l'environnement que tu espérais?
Alors, il n'y a aucune surprise. Je me sens comme à la maison, vraiment. Je me sens super bien. C'est comme si j'avais été ici depuis longtemps. En connaissant Stoney maintenant, j'ai joué avec lui plusieurs années à Berne. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je connaissais Daniel Villard, Stéphanie. Je connaissais plusieurs joueurs aussi que j'avais moi-même essayé de signer. Je suis vraiment dans un bel environnement. Puis tout le monde m'a vraiment accueilli à bras ouverts. Puis ça fait vraiment plaisir.
Ça discute déjà saison prochaine avec tout ce monde-là. Quelle équipe tu veux? Quel type de joueur tu veux pour la saison prochaine?
Il y a beaucoup de discussions, mais l'équipe ne changera pas énormément. On a Dominique Tsergaard qui vient d'Ambry. On a un défenseur de base. Je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé.
Eschbach.
Exactement ça. Et puis voilà, donc après, il va y avoir probablement un étranger qui va venir aussi. Donc, Mestourny, on a beaucoup de discussions ensemble. Et puis, là, il a l'air de me faire confiance aussi, donc ça me fait plaisir, ouais.
Le Kasalinen qui arrive en fin de contrat, tendance départ, discussion à venir?
Je pense qu'il y a déjà des tractations dans son pays, à Yéré. Donc, je pense que c'est un bon soldat, il donne tout, mais je pense qu'on va essayer peut-être de s'améliorer un petit peu là-dessus.
Comme étranger, un certain Christopher Di Domenico, ça pourrait être une...
honnêtement, je pense pas. Dido... je l'ai coaché, c'est un excellent joueur, on voit encore Ambry, il fait beaucoup de bonnes choses, mais peut-être qu'on veut se positionner peut-être plus sur un joueur de centre qu'un ailier.
Tu vas avoir toujours une équipe avec des jeunes joueurs, hein, vraisemblablement, l'année prochaine. Il y en a deux, tout le monde le sait, ils sont régulièrement observés par les scouts de NHL. Il y a Jona Neuenschwander, il y a Niklas Blessing aussi. Comment tu vois leur gestion à l'avenir? Parce que qu'ils continuent à apporter leur qualité à Bienne, même si, tout en sachant qu'un jour, ils vont avoir leur ticket pour peut-être aller voir plus haut ailleurs, voir en NHL. Comment tu vois leur gestion à ces jeunes joueurs-là, pleins de talent, pour pas qu'ils partent trop vite non plus et qu'ils se brûlent les ailes ailleurs?
Non, ben c'est chaque jeune évolue d'une manière différente. Chaque jeune a besoin de jouer dans un niveau différent. T'as un jeune qui, pour lui, jouer en Suisse, c'est ce qu'il faut. Puis t'en as un autre, c'est peut-être d'aller jouer en Suède ou d'aller jouer en Amérique. Ou donc, c'est des discussions que t'as avec ces joueurs-là et puis que t'analyses dans le cas de Jona. Qu'est-ce que t'as besoin exactement pour t'amener au prochain niveau? C'est de jouer contre des adultes ici, avoir du... Il y a quand même un bon temps de glace, ou ça d'aller jouer sur des petites patinoires en Amérique. C'est sûr que les scouts d'NHL, ils aiment voir les gars jouer là-bas puis voir comment ils vont
s'adapter.
Exactement. Ouais. Niklas Blessing, qui est quand même une force physique, le gars, ben, ils veulent le voir. Est-ce qu'il va être capable de jouer physique là-bas aussi? Donc, c'est des discussions que tu as avec les joueurs. Et puis, après, nous, notre but, c'est de les amener au plus haut niveau. Puis c'est gratifiant, c'est un Jona Neuschwander. Dans 2, 3, 4 ans, il se retrouve en NHL, un top joueur. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on a bien fait notre job ici.
Donc eux, dans leur tête, ils sont déjà venus un peu vers vous, vers toi, pour dire comment c'était quand les steps pour aller un peu plus haut?
Pas pour, ben en tout cas, moi, je suis ici depuis peu, là. Mais ouais. Peut-être, ça va être des discussions qu'on va avoir. Puis ils vont nous demander... vu qu'on a quand même une certaine expérience là-dedans, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui serait mieux pour moi? Après, ils écoutent aussi les agents, ils écoutent donc... mais on veut tous la même chose pour nos jeunes, c'est qu'ils aillent... moi, si on en a 6-7 qui peuvent jouer à NHL, mais c'est gratifiant de pouvoir dire, quand je vais avoir 80 ans, que je n'ai coaché 5-6, non, mais c'est ça. Donc, tant pis pour Bienne, mais en même temps, ben, bravo à Bienne, parce qu'ils font un bon travail avec les jeunes. Donc, c'est extraordinaire.
Ah, puis on a Yanis Moser qui montre une super image de la formation biennoise aussi, oui. Outre-Atlantique, quoi. Ouais. Sur ta manière de gérer les hommes dans le vestiaire, peut-être même aussi tactiquement le jeu, est-ce que tu dirais que tu as déjà évolué entre Fribourg et Bienne, ou non, tu es resté le même pour le moment?
Non, j'ai changé un peu parce que j'ai pas la même équipe, donc il y a des choses que je dois ajuster. Je peux pas agir de la même manière parce que j'ai des gars qui sont plus jeunes aussi. À Fribourg, je n'avais pratiquement pas de jeunes. Donc, et la chance que j'ai, c'est que j'ai deux garçons de 18 et 15 ans, donc ça m'aide beaucoup. Quand j'ai Jona, quand je dis des choses à Jona, ben il va me dire la même chose que mon garçon me dirait, donc je sais après comment je dois réagir. Donc ça m'aide beaucoup là-dessus, mais je suis un peu différent. Tu dois t'adapter. Au jour d'aujourd'hui, le coach, pour moi, c'est plus un psychologue qu'un coach. C'est comment tu parles aux personnes, comment tu arrives à les embarquer dans le bateau. Que tu aies un gars de 38 ans ou que tu aies un gars de 16 ans, comment tu fais? Parce que c'est pas le même discours, c'est pas la même génération.
Comment tu vois, je sais, on prend pas ton époque comme joueur il y a 20 ans, l'évolution, je sens, avec ces jeunes qui arrivent quand même rapidement, puis qu'on doit un peu traiter différemment, justement. C'est ça la plus grande évolution, selon toi?
C'est ça la plus grosse difficulté. Nous, on marchait à coups de pied dans le derrière, dans le temps, on posait jamais de questions. Tandis qu'aujourd'hui, tu dis aux jeunes, je veux que tu ailles à gauche, tu dis, ben pourquoi je peux pas aller à droite? On n'osait pas poser ces questions-là. Donc, tu dois avoir une réponse, tu dois être prêt à tout. Puis des fois, ben c'est un challenge, parce que aussi, je suis une personne assez émotive, puis j'ai été élevé à la dure. Et puis, quand t'as des gars qui te répondent, tu dis, purée, OK, je réagis comment, là? Donc, mais c'est la beauté de la chose en même temps.
Et le papa que tu es, justement, ça t'a aidé à mieux comprendre cette génération, peut-être?
Non, totalement. Ouais. J'ai deux garçons, puis les deux sont l'inverse. Donc, il y en a un qui est très challenging, et puis réponse à tout, et l'autre, c'est le contraire. Donc, ça aide, parce que dans le vestiaire, t'as la même chose. T'as des gars qui diront pas grand-chose, puis t'en as d'autres qui l'ont tout le temps ouverte. Donc, moi, ça m'aide vraiment à pouvoir gérer ces situations-là.
Alors, justement, on parle de Liam et Sky qui jouent à Davos, c'est juste, hein, en U21 et U18. Tes fils, tu veux éviter de les avoir un jour dans ton équipe, parce que manager ses enfants, c'est un nid à problème, ou alors, ouais, peu t'importe.
On est tous différents. T'en as qui veulent absolument pas. Moi, non. Moi, j'aurais du plaisir, parce que je pense que je serais la personne la plus dure avec mes enfants. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un problème de les avoir ici. Puis tout ce que je veux, c'est qu'ils soient le meilleur possible puis aider l'équipe. Donc après, s'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau. Donc je pense que les gens n'auraient pas avoir de soucis là-dessus. Là.
Dans le discours que tu as prononcé juste avant, j'entends beaucoup les mêmes mots du coach des Canadiens de Montréal, où chaque joueur doit être à son bon poste. Est-ce que c'est Martin Saint-Louis est quelqu'un qui inspire beaucoup?
Mais,
oui. Top Canadien?
Oui, mais je connais aussi Martin, puis j'ai tellement entendu de bonnes choses sur lui. Puis quand j'ai commencé à Fribourg, Martin n'était pas encore en poste. Où il venait d'arriver. Puis je regardais beaucoup, j'entendais beaucoup les mêmes sons de cloche aussi. Que il n'avait jamais coaché avant. J'avais jamais coaché avant. Mais à la fin, là, le hockey, c'est un jeu. Et puis les gars, ils ont quand même un immense respect pour Martin Saint-Louis avec la carrière qu'il a eue. Je pense qu'il y a quand même des joueurs qui voient que j'ai joué à quand même un bon niveau. Donc, si les choses que tu dis font du sens, ils vont t'écouter. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais mon discours a l'air de passer. Puis je suis juste honnête. Quand on est bon, je le dis. Quand on n'est pas bon, je le dis. Puis voilà, il faut accepter, on est des hommes, puis on est dans ce business-là. Donc, j'adore ce que je fais. J'adore parler aux joueurs et puis voir l'évolution. Puis si ce que je fais, ça fonctionne ou pas.
Finalement, coach, c'est un peu comme journaliste. Nous aussi, on dit quand vous êtes bon puis quand vous n'êtes pas bon.
Sauf que nous,
à peu près.
Sauf que nous, on est moins spécialistes. Non, il ne faut jamais se mettre à la place des coachs parce que c'est clair que...
Non, chacun, je veux dire, c'est pas pour... Parce que moi, je ne serais jamais journaliste, je ne serais pas capable. Donc, chacun son job, chacun son truc et puis voilà quoi.
Messieurs, on va s'offrir une petite parenthèse musicale maintenant.
100% rouge et jaune dans la playlist de l'invité.
On plonge dans le lecteur MP3, mais ça existe quasiment plus. Hein, d'ailleurs, j'ai réalisé ça il y a peu de temps de Christian Dubé. Tu vas nous partager un morceau de ta playlist. Celui qu'on va écouter, Christian, il est sorti quand tu étais encore joueur à Fribourg. C'est d'ailleurs devenu un tube planétaire. C'est parti, on écoute ça.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.
Avicii, Wake Me Up, tube de l'été 2013, artiste que tu aimes beaucoup, Christian.
Oui, moi j'ai vu son un de ses premiers concerts à Montréal dans le temps, il était tout jeune, il avait à peine 20 ans. Et puis son genre de musique m'a tout de suite fait accrocher, puis j'ai trouvé très tragique comment ça s'est terminé sa vie. Ouais. Il s'est suicidé très jeune.
En 2018.
Et puis j'ai vu son documentaire, très triste, je trouve, un gars qui était... qui était au top, puis au lieu d'être heureux, il était malheureux. Et puis tu te retrouves à te suicider parce qu'on t'a utilisé pour faire de l'argent, puis faire de l'argent, puis faire de l'argent, puis il disait je suis fatigué, j'ai besoin d'un. Puis non, ça continuait. Je trouvais ça très, très, très triste.
J'ai presque envie de dire que dans Wake Me Up, dans les paroles, on pressent déjà un peu que c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, il lui manque quelque chose.
Totalement. Ouais. J'allais dire la même chose. Donc oui, on le sent dans sa musique, il y a un mal profond, et puis. C'est triste. Donc, et moi, ça me permet aussi au jour d'aujourd'hui de dire, regarde, profite de la vie. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai encore doublement de plaisir à être derrière le banc ici. Puis parce que je suis vraiment heureux d'être là. Puis j'espère que les gens et que les joueurs le voient.
T'es un gros consommateur de musique. T'écoutes quoi? Un peu de tout?
Ouais. J'écoute pas beaucoup de français, je veux dire. J'aime beaucoup le rap, R&B, ça peut être de la techno aussi. J'écoute beaucoup de musique parce que je cours pas mal aussi, donc j'ai besoin du beat.
Et avec tes joueurs, t'arrives à être connecté avec ce qu'ils écoutent. Vu que t'as des adolescents, tu t'es aussi influencé par...
Oui, exactement, ils écoutent la même musique. Donc vu que les jeunes, ils ont tous le même son présentement. Puis après, les plus vieux, ben, on se rejoint aussi dans nos choix de musique, quoi.
Et avec les jeunes, dans le vestiaire, tu te sens pas trop perdu dans ce qu'ils écoutent
Non, pas vu que j'ai avec Liam et Sky, je suis à jour là-dessus.
On sait que Gaëtan s'écoute du Joule de temps en temps. Je sais pas si c'est toléré dans le vestiaire.
Moi, je les laisse, tant que ça les motive, puis ils jouent bien, j'ai aucun problème.
Merci beaucoup en tout cas Christian pour ce partage musical, de nous avoir ouvert ta playlist avec Avicii, donc Wake Me Up, que tu pas forcément fait découvrir mais refait découvrir peut-être, ça fait déjà quand même un petit bout de temps. On va passer au quiz. Tu sais qu'on pose souvent une question quiz à nos auditeurs par les réseaux sociaux de RJB, de A Jour. À gagner, il y a une gastrocard au HC Bienne. La question était un peu tirée par les cheveux, c'était la dernière fois que le HC Bienne s'est extrait des play-in. Quel joueur biennois a marqué lors des deux matchs du deuxième tour? Tiens, Marc-Alain, au pif, quand je te l'ai dit comme ça, non?
Non, ça te dit. J'ai réfléchi déjà vraiment longtemps quand je l'ai lu, donc je me suis
fallait
dit,
faire quelques recherches. Alors déjà, fallait trouver quand le HC Bienne s'est sorti des play-in la dernière fois. C'était fin de saison 2023-2024. Premier tour contre Genève. Deuxième tour, celui qui nous intéresse, contre Ambry. Et celui qui a marqué lors des deux matchs contre Ambry, c'était Tino Kessler, qui aujourd'hui évolue du côté de Davos. Voilà. Bah d'ailleurs, qui doit aussi côtoyer tes enfants de temps à autre.
J'avais été très près de signer à Fribourg.
Ah ok. Il faisait partie de ces joueurs biennois que t'avais
rencontré. Oui. Ouais. C'est un très bon joueur d'ailleurs. Donc oui, je l'ai pu le côtoyer il y a quelques mois en arrière. Ouais.
Alors Christian, à côté de toi, tu as un saladier avec des boules rouges et jaunes. Parmi les bonnes réponses, elles sont toutes là-dedans. Tu peux en tirer une au pif. Vas-y, tu peux
rouge,
remuer.
Jaune, pas d'importance.
Ouais, pas d'importance. Tu remues, tu choisis celle que tu veux. Et puis je te laisse l'ouvrir. T'appuies dessus pour que ça s'ouvre. Et tu nous dis qui est l'heureux ou l'heureuse vainqueur de la gastrocard.
Alors, l'heureuse gagnante est Stéphanie Amore.
Ah, elle vient d'où, Stéphanie Amore?
De Sonsebeau.
De Sonsebeau. Eh bien, Stéphanie Amore de Sonsebeau. Bravo. Une gastrocard au HC Bienne gagnée. Elle vous sera prochainement directement envoyée chez vous. Il y a eu pas mal, beaucoup de réponses. Il y a eu quelques mauvaises réponses aussi, parce que la question n'a pas tout à fait été comprise par tout le monde, mais la majeure partie, vous aviez quand même trouvé Tino Kessler. Le retourne. Pour finir, quelques questions rapides. Et un brin humoristique, Christian, si tu le permets. T'es plutôt bon resto ou bière bowling avec des amis?
Bon resto.
Bon resto. Christian, d'où te vient ta classe vestimentaire et ton goût pour la mode?
Ma maman.
C'est vrai?
Oui.
Elle était dans le métier ou?
Non, elle a toujours été habillée tip-top. Elle adorait ça depuis qu'elle était tout jeune, donc elle est un peu extravagante comme moi.
Moi, j'ai une petite question. Si on qualifie le HC Bienne en play-in, on a droit à un costume play-in? Il est déjà...
Je peux regarder, ouais, ça peut être intéressant. Je suis pas contre.
Ah, alors, on note.
Avant le match, entre la préparation du line-up ou alors la préparation salle de bain plus choix vestimentaire, c'est quoi qui prend le plus de temps chez toi?
Salle de bain vestimentaire. Ouais. Je m'y prends déjà la veille.
Est-ce que tu as des petits rituels avant les matchs en tant que coach que peut-être tu as gardé depuis que tu es joueur ou...
Alors, je vais toujours courir, que ça soit sur la route ou à la maison, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse moins 20 ou plus 30. Donc, je vais courir avant chaque match. Et je prends tout le temps un sauna et bien froid aussi avant le... Et j'ai trouvé un nouveau partenaire, Mathias, mon assistant coach. Je prends toujours une douche, ensemble avant le... Avant le match. Donc,
c'est les Finlandais qui t'ont converti au bain froid ou...
Non, j'ai toujours okay. Aimé ça.
J'allais te poser la question, quel autre sport tu aimes pratiquer ou regarder à la télé? Donc course à pied, tu cours?
Non, alors le baseball.
Baseball, ok.
Parce que je voulais être joueur de baseball et puis finalement, j'étais pas assez bon, donc j'ai choisi le hockey, mais j'adore le baseball, même si tout le monde pense que c'est ennuyant, mais pour nous là-bas, il y a beaucoup de stratégie et de tactique là-dedans, donc j'aime beaucoup le baseball.
Quelle équipe?
Avant les Expos de Montréal, mais maintenant ils sont plus là, il y a des Blue Jays de Toronto.
Au JO d'hiver, hormis le hockey, tu as regardé quelque chose?
Ouais, plein de choses, oui. Ouais. Plein de choses qu'on ne regarde pas d'habitude. Bon, le ski, oui, mais le bobsleigh, le curling, le nouveau...
Ski alpiniste?
Ski alpiniste, c'est très spécial. Donc, non, c'était après le saut... saut acrobatique, parce que les Canadiens sont aussi pas mal là-dedans. Et puis avec... notre gruyérienne, j'habite en Gruyère, moi.
Ouais.
Mathilde
Grimaud. Ouais. Exactement. Donc, non, c'est cool. Tu commences à connaître les gens, puis tu regardais après. T'sais.
Ton hobby en dehors du sport?
Les finances.
OK.
T'aurais pu te reconvertir là-dedans,
je,
à la banque.
Je retiens mon père là-dessus. Mon père était beaucoup là-dedans. Puis, mais j'aime m'informer en général. Donc les finances, les nouvelles. J'aime la mode, j'aime l'architecture. Donc je suis assez. Quand le matin je me lève, il faut que j'aille lire ce qui se passe dans le monde. Pour moi, c'est hyper important parce que j'utilise aussi, quand je parle aux joueurs, pour moi, je veux savoir ce qui se passe.
En NHL, est-ce que c'est enfin l'année pour le retour d'un sacre canadien, Montréal ou Edmonton, par exemple?
Ou Edmonton, je ne penserais pas. Ça fait déjà deux fois qu'il manque. Montréal, ils sont très jeunes. En playoff, ça peut jouer contre eux. Ils sont très, ils vont, puis ils ont une super équipe.
Ils sont troisième de leur conférence.
Je pense que dans quelques années, ils devraient être. Si le noyau et ils mûrit bien ensemble, ils vont être très dangereux. Je dirais pas présentement.
Tu es allé voir un ou deux matchs cette saison au début là-bas ou bien
non, du tout. J'étais avec la famille à Davos, donc non.
Mais pas de Toronto, on est d'accord.
Non. Ouais. Non.
J'ai eu peur à un moment.
Non.
Et la dernière, tu préfères Stoney en coéquipier ou en directeur sportif?
Alors, en coéquipier, parce qu'on pouvait se foutre sur la gueule aux entraînements.
Maintenant, c'est plus compliqué.
On le fait encore, mais voilà.
100% rouge et jaune.
Voilà, merci beaucoup Christian Dubé d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce 100% rouge et jaune. Merci pour ta franchise, tes discussions aussi toujours passionnantes. 100% rouge et jaune qui est à retrouver en podcast sur le site rjb.ch, onglet émission puis chronique et sur les plateformes de streaming. Le prochain match qui sera commenté sur RJB, évidemment, ce sera Bienzouk vendredi 19h45 à vivre avec l'avant-match dès 19h30. À la une du JDJ demain, Laurin, avant les matchs du week-end.
Alors, normalement, quelque chose avec Marcus Sylvegaard par Vincent Criblé, qui va à l'entraînement de jeudi. Et puis, on aura donc quelque chose aussi avec Pavel Rosa, en plus du match dans le journal de samedi. Beaucoup de hockey, mais c'est la saison.
Et puis, effectivement, et 100% rouge et jaune reviendra, on l'espère, pour des play-in. On ne peut pas encore vous donner de date, parce que ça va dépendre, évidemment, de l'issue de la saison, mais on vous tiendra au courant sur le Facebook et l'Insta de RJB et de Ajour. Merci beaucoup, messieurs. Et bonne soirée, salut à tous.
Merci. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Retrouvez 100% rouge et jaune sur les plateformes digitales de RJB et Ajour.